27 juillet 2021, le repêchage est maintenant chose du passé. C'est l'heure de l'analyser. Je suis en compagnie de Martin Thériault pour un autre podcast de La Relève. Martin, satisfait du repêchage en général?
Ouais, on est toujours content. Écoute, là, on a eu nos cadeaux. On est capable de savourer, de jouer avec. Puis on est heureux, honnêtement. C'est toujours de beaux événements. C'est certain que ce serait mieux de voir ça en personne. On va avoir hâte d'avoir la vraie atmosphère d'un repêchage. Tu sais, de voir les DG qui se parlent entre eux puis qui disent ouais. Toute transaction. Oh, est-ce que Marc Bergevin va transiger avec les Flyers? Il a parlé avec Chuck Fletcher. Finalement, il arrive quelque chose où il arrive rien. Tu sais, tout ce jeu de coulisses-là que tu as habituellement, ça, tu ne l'as pas. Puis ça, c'est peut-être un peu dommage. Puis même, je dirais, honnêtement, le jour 2 peut être un peu long également. Là, puis pour des raisons logistiques qui sont tout à fait compréhensibles. Mais quoi qu'il en soit, on a eu une belle journée, je pense. On a toujours des surprises agréables, on a toujours des surprises moins agréables. Il y a eu des choses qui ont été quand même prévisibles, beaucoup plus que par le passé. Tu sais, le fameux top 9, si on veut. Tout le monde s'entendait pour dire qu'il y avait 9 ou 10 bons espoirs, et excepté le gardien Wallstedt qui a glissé. Je pense que les 9 que tout le monde voyait ont sorti. Exactement où les gens s'imaginaient, ce qui était quand même assez rare. Lorsque tu regardes les autres années de repêchage, tu as toujours un ou deux joueurs du top 10 qui vont finir par glisser. Là. L'année dernière, par exemple, c'était un joueur comme Anton Lundell. Tu sais.
Ouais, puis Wallstedt qui a glissé, assurément que les fans du Wild là, devaient être déçus là, de voir ce gardien là, glisser jusqu'à eux. Mais non, sans blague, je te rejoins. Puis c'est vrai que niveau ambiance, ça manquait un peu. Quand le rival direct de l'équipe qui host le repêchage arrive, il y a les huées, puis après ça, tu sais. Ça amène un peu ce côté-là, le fun. On peut avoir des entrevues avec les joueurs directement. Tu sais, il y a un contact qui est humain. C'est pas fait par Zoom, c'est pas fait par Skype. Cependant, puis tout le monde le sait, le repêchage aurait dû avoir lieu à Montréal. Cependant, si le repêchage avait eu lieu à Montréal et que le Canadien y avait été de cette sélection de Logan Mailloux, peux-tu imaginer la réaction de la foule si ça s'est passé comme ça s'est passé sur Twitter, qui était vraiment un raz-de-marée là, de commentaires et de critiques assez sévères dans l'endroit de l'organisation. Je pense que Marky, il faut en revenir. Là, on en a parlé beaucoup vendredi dernier. Mais Logan Mailloux, ce choix controversé qui arrive dans le camp du Canadien, est-ce que tranquillement, tu commences à process le fait que c'est un membre de l'organisation du Canadien de Montréal? Là?
Ben, ça, t'as pas... en tant que partisan des Canadiens, puis vous savez que mon équipe, c'est pas nécessairement les Canadiens, mais je pense aux partisans, tu sais. À un moment donné, c'est fait, tu ne peux pas faire d'autre chose. La décision appartient à Jeff Molson, à Trevor Timmons, à Marc Bergevin, à l'organisation des Canadiens. Eux ont décidé d'y aller avec un Logan Mailloux. Eux, ils pensent que ça va être un excellent espoir de premier plan. Ben, on n'a pas le choix de faire avec. Maintenant, c'est de voir à quel point les répercussions... à quel point il va y avoir des répercussions sur les Canadiens de Montréal, à quel point... Il va y avoir de l'attention médiatique inutile, là, quelque part, sur l'équipe. Regarde, juste simplement ce matin, là, Justin Trudeau a critiqué la décision des Canadiens. Lorsque le premier ministre du Canada se mêle du dossier, ça en dit quand même assez long à quel point c'est polarisant et que ça fait des vagues. Là. Tu sais, je parlais souvent de l'exemple de Mitchell Miller, mais Donald Trump, c'était Donald Trump le président à l'époque, Donald Trump n'est jamais sorti publiquement pour... aller critiquer le choix des Coyotes ou Joe Biden, par exemple. Donc, c'est quand même pas rien de voir que le premier ministre de ton pays se permet de critiquer ce choix-là.
Je pense que le fait aussi que c'est les Coyotes, peut-être que ça avait été un choix des Rangers de New York ou des Capitals de Washington qui sont près de Donald Trump à l'époque. Peut-être que là, ça aurait eu des répercussions différentes. Le fait que c'est en Arizona, un marché... Puis, anyway, le hockey est beaucoup moins populaire, là. Au sud de la frontière, là, ça il y a moins de doutes là-dessus. Mais Marty, j'aimerais ça que tu me décrives un peu qui est Logan Mailloux, parce qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui entoure le joueur, mais on s'est pas vraiment attardé sur qui est Logan Mailloux, le joueur de hockey. Bon, on le sait, c'est un défenseur droitier, probablement la position que le Canadien avait le plus besoin de renfort, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un joueur qui est sorti en première ronde?
Ben, Logan Mailloux, tout d'abord, si on enlève le côté hors de la patinoire, ça demeure un défenseur de quand même assez gros gabarit. Là. C'est 6 pieds 4 pouces. C'est un joueur qui va évoluer dans la OHL avec les Knights de London. Moi, personnellement, lorsque j'évalue des joueurs et que je vois que le joueur a passé par les Knights de London, ça peut peut-être lui faire prendre 2 ou 3 rangs de plus parce que tu le sais que c'est Dale Hunter l'entraîneur. Tu le sais qu'ils ont une réputation de développer des joueurs, de leur donner un bon encadrement. Souvent, ça va jouer pour le joueur. Je ne dis pas que c'est ça, c'est la raison pour laquelle il a été sélectionné premier tour. Mais par rapport au style de jeu, il y a un style offensif très intéressant. C'est quelqu'un qui a une bonne présence en avantage numérique, un bon lancer, vraiment un sens offensif. Et ça, si tu regardes au niveau de tout le repêchage, oui, les Owen Power, les Brent Clark et ces défenseurs-là.
Ouais, qui étaient dans une autre catégorie, là, ça, on s'entend. Là. C'était un autre niveau.
Mais il était peut-être, sur le plan offensif, du moins, là, je ne parle pas de ses autres qualités, sur le plan offensif, il est peut-être une petite coche derrière ces gars-là. Donc, c'est pour ça que ça devient quelque chose d'intéressant. Je te dirais que du côté, tu sais, il a joué du côté de la Suède dans la troisième division suédoise. On va être honnête, c'est la première fois que je voyais ce calibre de jeu-là, la troisième division suédoise cette année. Forcé d'admettre que je trouve que c'est peut-être pas la meilleure ligue pour évaluer un joueur. Les systèmes de jeu sont, en bon français, tout croche. Les joueurs se placent assez mal dans la zone. Tu sais, tous les petits détails que tu vois habituellement, appliquer de l'échec avant au bon moment, limiter l'espace, tu vois pas ça du tout. Ça joue un peu de toutes sortes de façons. Et là, un gars comme Logan Mailloux, ça pouvait peut-être l'aider. Parce que ce que je trouve de Logan Mailloux, c'est que défensivement, il y a peut-être des lacunes. C'est peut-être là le gros bémol qui, moi, personnellement, en excluant l'histoire en Suède qui est arrivée, moi, je l'avais un peu plus loin parce que ses carences en défense me faisaient un peu plus douter. Mais cela dit, son talent offensif, son potentiel de transporter la rondelle, il a un excellent coup de patin. Ça, c'est intéressant. Et tout ça comme moi, Trevor Timmins a souvent une tendance à apprécier les joueurs vers la fin de la saison lorsqu'ils sont bons en série ou dans des moments importants ou tout simplement dans des événements qui sont arrivés un peu plus récemment. Et Logan Mailloux, lui, a participé à un showcase qui se déroulait du côté d'Erie en Pennsylvanie. Ils avaient organisé ça, principalement pour les joueurs de la Ligue junior de l'Ontario, mais pour pas mal tous les espoirs de cette région-là. On voulait leur donner tout simplement une chance de se faire valoir. C'était vraiment réservé seulement aux joueurs qui n'ont pas vraiment eu de saison, finalement, qui n'ont pas pu... que les recruteurs n'ont pas pu voir évoluer. Et lui, honnêtement, pour avoir vu quelques matchs de ce showcase-là, ça a probablement été de loin le meilleur joueur de ce tournoi-là. Il était gros, il transportait la rondelle, il était super offensif, pas beaucoup d'erreurs. Donc moi, j'ose espérer que... J'ai l'impression que Trevor Timmins s'est dit, il a eu une très belle progression, il a été bien meilleur dans ce showcase-là qu'il pouvait l'être en Suède. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, faut absolument le prendre au premier tour, parce qu'il l'a dit un peu en conférence de presse, là, qu'il s'attendait à ce qu'une équipe pouvait mettre la main dessus au premier tour.
Bon, il y a eu quelques rapports quand même qui sont sortis sur Twitter par la suite. Là. Il y a une dizaine d'équipes là, qui étaient prêtes à le ramasser au deuxième tour. Mais la question à 100 piastres, Marty, parce que là, bon, on le sait, le Canadien l'a récupéré avec l'avant-dernier choix du premier tour. Mais s'il n'y avait pas eu cette controverse-là autour de Logan Mailloux, si c'était seulement basé sur les qualités athlétiques du joueur, ce qu'il est capable d'apporter sur la patinoire, à quel rang il aurait été sélectionné, d'après toi, environ?
C'est une bonne question. J'aurais le goût de te dire que... Moi, j'ai l'impression que les Canadiens de Montréal l'ont sélectionné en excluant ce qui s'est passé. D'ailleurs, Marc Bergevin l'a un peu dit, là. Eux, ils pensent qu'il est repentant, qu'il a appris de ses erreurs, qu'il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'ils l'ont tout simplement sélectionné au rang où il devait sortir. On ne saura jamais. Peut-être que les Devils du New Jersey l'avaient en haute estime et qu'ils l'auraient pris avant Chase Hillman. Mais moi, je suis pas mal là que je le... Tu sais, au maximum, je pense qu'il y avait des chances de sortir au premier tour si on exclut cette histoire-là. Mais de là à dire que je l'aurais pris devant un Oscar Olsson ou un Zachary Lheureux ou un Carson Lambos ou un Carson Coleman, non, je ne dirais pas.
OK, bon, mais alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Si le joueur ne glisse pas, advenant là, que c'est Brent Clark, là, qui lui est pris dans un scandale sexuel, puis que là, finalement, il glisse, il arrive au choix du Canadien, fin de premier tour, on ramasse Brent Clark, je comprends déjà plus. Malgré que j'excuse en rien l'organisation, là, soyez bien clair, là, moi, j'aurais jamais fait cette sélection-là, là, mais je comprends que c'est un joueur de haut calibre qui a glissé jusqu'au Canadien. Mais là, si le joueur, c'est sensiblement le rang qu'il aurait dû être choisi, pourquoi est-ce qu'on s'embarque là? Pourquoi est-ce qu'on subit ça? Pourquoi est-ce qu'on... On n'aurait pas pu tout simplement prendre un joueur d'une qualité presque similaire et tout simplement passer sur cette controverse-là. Mais il me semble qu'on n'avait pas besoin de tout ça à Montréal.
Ben, moi, c'est davantage ça. Là. Ben, là, tu le vois, là, quand Justin Trudeau se permet de commenter, c'est parce que c'est rendu quand même assez gros puis ça met de l'attention inutilement. Moi, il n'y a aucun doute que... Est-ce que c'était un bon espoir? Oui. Est-ce que c'était de loin le meilleur espoir disponible, comme Jesper Wallstedt lorsque le Wild s'est avancé pour aller le sélectionner? La réponse est non. Selon moi, il y avait des meilleurs joueurs disponibles. Dans ma liste personnelle, il y avait des joueurs meilleurs que Logan Mailloux encore disponibles. Donc, laisse une autre équipe se s'embourber dans cette controverse-là. Laisse les... Puis ce ne serait pas arrivé parce qu'eux aussi sont dans une controverse, là, mais laisse les Blackhawks de Chicago prendre cette décision. Laisse les Flyers de Philadelphie prendre cette décision-là. Ne te mets pas des pieds dans les plats. De toute façon, il y a d'autres bons espoirs. Logan Stankoven est un excellent espoir. Ça aurait très bien pu être le choix numéro 30. Et je pense que tout le monde aurait été content, d'autant plus que le bon... ça, je l'ai vu par après, je ne le savais pas sur le coup, mais Logan Stankoven était un partisan des Canadiens plus jeunes. Son idole, c'était Mike Camilleri.
Donc, ouais, ça ne nous rajeunit pas, ça, quand le gars dit que son idole, c'est Mike Camilleri, jeunesse. Fait, ah, comme, je m'en viens vieux. Mais c'est vrai, tu as raison. Puis pour Mailloux, je vais citer mon collègue Jean-François Thibault avec qui j'avais la discussion hier. Mm-hmm. Advenant que c'est Mathias Norlander qui se fait prendre dans un scandale similaire, ben là, il est déjà ta propriété, tu as déjà ses droits. Ben là, tu l'épaules. Là, tu affrontes la tempête médiatique, tu vas de l'avant, puis on fonce. Mais là, on n'avait pas besoin de ça. Puis c'est ça où est-ce que j'ai un petit peu de la difficulté à comprendre. D'autant plus qu'on sortait d'un printemps, slash un été, là, où est-ce que le Canadien de Montréal avait vraiment fusionné le Québec. Tout le monde s'était rassemblé derrière l'équipe. On avait l'impression qu'il y avait plus d'engouement, puis c'était comme une transition vers... On est enfermé pendant un an et demi en raison de la COVID-19, et là, on peut comme célébrer un peu chacun chez soi, mais on vit la frénésie des Canadiens ensemble. Et là, quelques semaines plus tard, on redivise le Québec. Certaines personnes sont en accord avec la décision. D'autres personnes trouvent que c'est inacceptable. Donc, moi, j'ai un petit peu de la difficulté avec tout ça, mais on verra. Meilleure chance au coureur. Moi, je pense que ça va être difficile pour lui parce qu'on est, tu le sais, Marty, je t'apprends rien. On est un marché qui analyse tous les faits et gestes de l'organisation. Puis, je te donne un exemple. Quand un gars comme Ryan Poehling se fait critiquer ouvertement, tout simplement parce qu'il joue à Fortnite ou encore parce qu'il est un partisan de Donald Trump, ça va être quoi quand ça va être Logan Mailloux qui va arriver? Il aura intérêt à être bon s'il ne veut pas subir un traitement à la Patrice Brisebois et se faire ruer toutes les fois qu'il touche à la rondelle. Là. Moi, je crains un peu pour le joueur. Je pense qu'il n'est pas du tout au bon endroit pour avoir une deuxième chance.
En fait, ça dépend. Ça, les Canadiens de Montréal le savent plus que nous. Ils ont fait des évaluations psychologiques puis le savent davantage à quel point le mental du jeune homme est solide. Mais il y a deux possibilités. Soit que ce joueur-là va devenir un flop total parce que la pression va l'avoir beaucoup trop écrasé, ça ne sera jamais capable de s'en sortir. Ou c'est l'inverse. Il va super bien... T'sais, rappelle-toi Patrick King lorsqu'il a eu son histoire du côté de Buffalo. Puis on se demandait comment il allait réagir la saison suivante. Et si je ne me trompe pas, ça a été la meilleure saison de sa carrière. Il a gagné le trophée Hart, je me souviens bien, cette année-là. Ou en tout cas, il y a une très, très grosse saison. Là. Donc, là, c'est de voir ça. Est-ce qu'il va en profiter du fait de jouer au hockey, de dire « OK, je peux me libérer l'esprit lorsque je suis sur une patinoire, simplement créer » ou ça va l'écraser? Là, maintenant, on va voir pour le reste. Là, si on n'a pas la réponse pour l'instant. On verra dans quelques années.
Quand c'est sorti vendredi, bon, pour les gens qui ne le savent pas, là, on était en direct, là, on a eu la chance de suivre avec vous le repêchage. D'ailleurs, on vous remercie là, les nombreuses personnes qui nous ont accompagnés, qui nous ont envoyé plusieurs questions. C'est vraiment intéressant, de loin, une expérience qu'on aura la chance de refaire là, assurément l'année prochaine. Immédiatement, je suis allé de la déclaration suivante. C'est sûr et certain que le Canadien, avec un de ses deux choix de deuxième tour, va repêcher dans la LHJMQ, tout simplement pour... un peu détourner l'attention, faire plaisir aux gens, entre guillemets, tenter de se racheter. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, Marky. Alors, je me lance des fleurs. Bravo, bravo.
Mais tu vois, il y a moi sur ce podcast-là, c'est pas pour rien qu'on t'a pris aussi. T'es capable d'avoir une boule de cristal qui t'a démarqué aussi. Là.
Et si, ça travaille fort. Là. Et c'est de la LHJMQ, ils ont ramassé Riley Kidney. Kidney, tu le vois un peu comme un beau projet qui pourrait devenir un excellent choix, mais que ça pourrait aussi être un peu plus difficile.
Ouais, ben moi, c'est comme ça, je le vois. C'est une très, très drôle de coïncidence parce que au cours du dernier mois, j'ai travaillé très fort avec Alexandre Régimbal, notre estimé collègue de la LGMQ. On a travaillé sur ce qu'ils appellent des analyses d'espoir, des scouting reports, en quelque part, sur les 20 des meilleurs espoirs de la LGMQ. On a publié ça dans la semaine précédente, le repêchage. Je pense que ça a été quelque chose d'assez bien. Je pense que certains partisans ont peut-être apprécié. Et le hasard a fait en sorte que, ben, par la banque, j'ai fait l'analyse de quatre des espoirs sélectionnés par les Canadiens. Et là-dedans, ben, j'ai une analyse de Riley Kidney. Donc, je suis bien placé pour vous en parler. Riley Kidney, c'est un fabricant de jeu. Sa grosse qualité, sa qualité numéro un, c'est qu'il a une extraordinaire vision de jeu. C'est quelqu'un qui joue beaucoup Est-Ouest. C'est quelqu'un qui aime ralentir le jeu, voir les options se dérouler. Puis s'il n'y a pas les options, va tenter de faire différents gestes pour ouvrir les lignes de passe. Un geste que je l'ai souvent vu faire, par exemple, là, c'est en zone neutre, tourner 3, 4 ou 5 fois sur lui-même, le temps de voir une ouverture pour pouvoir entrer dans la zone adverse. Là, par la suite, ça permettait de créer des choses. Donc, il est super brillant à ce niveau-là, une très, très, très bonne vision de jeu. Moi, je me questionne seulement, justement, étant donné que c'est quelqu'un qui joue davantage avec peu de rythme, c'est quelqu'un qui aime ralentir le jeu. Puis souvent, il fait ces jeux-là en zone neutre. Je me demande si ça se transpose dans la LNH. Moi, personnellement, c'est ces questions-là que j'ai. Sauf que s'il est capable de percer, ça peut devenir un excellent coup. Ça peut devenir un joueur qui va évoluer sur une deuxième vague d'avantages numériques et qui va être super productif, qui va alimenter des coéquipiers comme... pas Cole Caulfield, là, parce que Cole Caulfield, théoriquement, serait sur la première vague, mais si tu places, par exemple, un Jesperi Kotkaniemi sur la deuxième vague, par exemple, ben peut-être que ça peut l'aider. Si on se transpose dans 2 ou 3 ou 4 ans, là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc, personnellement, j'aurais pas fait ce choix-là. Je préférais d'autres espoirs, mais je comprends le pari. Ça peut être très intéressant si ça s'avère, finalement.
Mm-hmm. Tu parlais tantôt que Trevor Timmons aime les gars de caractère, les gars qui performent en série. Je regarde ses chiffres. En seulement 9 parties, il a amassé 17 points avec le Titan. Bon, je le sais que le Titan avait quand même une bonne formation cette année, mais ça reste que c'est encourageant à son année de draft, qui amasse presque un point par match en série éliminatoire. Ça, c'est des chiffres qui sont quand même pas mal.
Ouais, puis ça revient à ce que je te disais tout à l'heure sur Trevor Timmons, qui aime et qui a souvent tendance à apprécier les performances dans des tournois internationaux importants ou les séries. Mais là, lui lors des séries, il a été super bon. Oui, ils ont perdu contre les Islanders de Charlottetown, mais il a été super bon. Ça a été le meilleur joueur offensif de son équipe. Tu sais, au niveau de la LHGMQ, lors des séries, ça a été, pour les points par match, là, ça a été égalité au deuxième rang pour les meilleurs pointeurs. Il était à égalité avec Dawson Mercer, qui est un choix de premier tour en 2020. Donc, ça donne une idée à quel point Riley Kidney a été quand même assez bon dans ces séries-là. Là. Ça, c'est peut-être le côté intéressant. S'il y a un dénominateur commun que tu peux voir chez Trevor Timmons souvent, c'est des gars qui ont performé vraiment vers la fin de la saison, voire dans les séries. Là.
C'est ce qui avait été le cas de Kotkaniemi, notamment, là, qui avait augmenté son draft stock là, vers la fin là, de son année de repêchage, passé peut-être de 12e rang à finalement être repêché 3e là, avec le Canadien de Montréal. Bon, Marquis, on a repêché dans la LHJMQ, mais on a aussi repêché 3 Québécois. Et le premier qui a entendu son nom être prononcé par l'organisation du Canadien, c'est William Trudeau. Tu parlais de Charlottetown, justement le défenseur de Charlottetown.
Oui, tout à fait. C'est un choix intéressant, honnêtement. Surtout au 4e tour, là, rendu dans les rondes 4 à 7. Tu veux prendre des chances avec des joueurs avec des qualités intéressantes. Il y a peut-être d'autres défauts, moins de profils intéressants que les joueurs que tu vas sélectionner au premier tour. Non, mais je trouve intéressant ce pari-là. William Trudeau, c'est bizarre parce que au début de la saison, c'est pas quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il faisait il y avait des revirements en défense. Souvent, c'était à sa ligne bleue. Là, prenait des mauvaises décisions avec la rondelle, puis ça donnait des chances de marquer pour l'adversaire de l'autre côté. Mais plus la saison avançait, puis meilleur il était, moins qu'il faisait d'erreurs et il se démarquait davantage par sa plus grosse qualité, c'est vraiment son sens du hockey. Il voit super bien le jeu se dérouler, capable de voir les options. S'il n'y a pas d'options, il va les créer lui-même. Avec 2 ou 3 maniements de rondelles, ça va ouvrir des lignes de passe, puis va être capable de générer de l'attaque à ce niveau-là. Ça, c'est intéressant. Puis, comme je t'ai dit, au niveau de la saison, plus que ça a été, meilleur qu'il était défensivement, il faisait moins d'erreurs, mais en plus, se démarquait par... il est capable de gagner des batailles dans les coins sur le plan physique. Là. Puis, Et encore là, je reviens à Trevor Timmons qui aime ce qu'il peut voir des joueurs vers la fin de la saison. Ben, il a été super bon contre les Tigres de Victoriaville. La seule équipe du Québec que les Islanders ont affronté, c'était dans la bulle à Québec. Ben, il a été super bon. Il a peut-être même été meilleur que certains vétérans des Islanders. Là.
Mais je suis content que tu parles des séries parce que moi, j'ai ce bémol-là avec les Islanders de Charlottetown. Ils sont restés dans le coin, là, évidemment, là, pour des raisons bien évidentes de COVID, toute la saison avec des équipes beaucoup plus faibles. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un danger ici de surévaluer le joueur parce qu'il n'avait pas nécessairement de compétition tout au long de la saison régulière, donc plus facile là, d'affronter des joueurs de calibre inférieur?
Ben, pas dans le cas de Trudeau. Comme je viens de te dire, moi, je trouve qu'il a été bien meilleur contre les... T'sais, s'il avait été mauvais, oui, il y aurait du questionnement à faire. Là, OK, ils ont affronté des clubs un peu moins forts toute la saison. Puis là, c'est pour ça que ça a été facile. Puis c'est pour ça qu'un... Ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a eu un différentiel de plus 34. Là. Ça a été le troisième dans la LHGMQ, sauf que je me souviens bien, là, les six premiers étaient des joueurs de Charlottetown, donc ça vaut...
C'est ça, exact. Cette statistique-là, cette année, vaut particulièrement rien pour les équipes de Charlottetown parce qu'il y avait moins de compétition.
Non, tout à fait. Mais dans le cas de Trudeau, lui, lorsqu'il est arrivé contre Victoriaville, il a bien joué. Il s'est bien démarqué. Comme je te dis, là, je pense que le meilleur défenseur de Charlottetown était Lucas Cormier. J'en ai déjà parlé. Je pense que lui a une chance légitime de peut-être jouer dans la LNH l'an prochain. Mais après ça, je pense que c'était William Trudeau, le meilleur joueur des Islanders. Il y a un vétéran qui s'appelle Noah Lowen, qui était le partenaire en défense de Lucas Cormier. Lui, ça a été pas mal plus difficile. Lui, tu peux poser davantage de questions. OK, il a été bon parce qu'il affrontait souvent les Eagles du Cap... En tout respect pour les Eagles du Cap-Breton, c'était pas une grosse équipe cette année, tu sais.
Il a glissé aussi au repêchage.
Lequel, ça?
Nolan Allen.
Noah Lowen. Lowen, c'est pas un joueur nécessairement qui était... C'est un joueur de 19 ans, là, il est pas nécessairement admissible au repêchage. Oui, il était admissible, mais il était pas sur les listes. C'est un joueur qui va probablement évoluer à 20 ans dans la LHGMQ. Mais c'est pas... Toi, tu te trompes. Nolan Allen, lui, c'est un défenseur de...
Non, je sais. Ça, c'est le gars qui a été drafté 32e, là, mais... non, excuse-moi, je pensais qu'il avait glissé au repêchage, mais je me mêle avec un autre joueur.
Non, c'est ça. C'est simplement un bon vétéran de la LHGMQ, mais tout simplement pour dire que William Trudeau, lui, il a été super bon. Et j'aurais davantage des inquiétudes pour le partenaire en défense de Trudeau. C'était Oscar Plendowski. C'est un espoir des... c'est un joueur qui a été repêché par les Red Wings dans ce repêchage-là, justement. Lui, j'ai pas mal plus d'inquiétudes. Lui, ça a été pas mal plus difficile. Lui, ça a pratiquement été le contraire. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup en début de saison. Puis ça a été plus difficile vers la fin. Plus de revirements. Puis ça n'a jamais été un gars défensif. Donc, lui, je me pose davantage de questions. Mais William Trudeau, lui, par contre, ça s'est bien passé. Et si tu regardes tout au long de sa carrière, c'est là que je trouve le pari de Trevor Timmons intéressant. On dirait que c'est un joueur qui se développe sur le tard. Lorsque tu regardes, il y a environ 2 ou 3 ans, lui, c'est un produit du collège de Mortagne. Il jouait avec le programme de Mortagne à Boucherville. Il jouait au niveau midget espoir. Ça arrive de voir des joueurs du niveau midget espoir se retrouver dans la LHMQ, être repêché dans la LNH et relativement bien faire sans nécessairement jouer dans la LNH, mais sont capables de faire quelque chose au niveau de la Ligue américaine, par exemple. François Bouchard me vient en tête à ce niveau-là. Mais lui, si tu regardes ses statistiques, en 2017-2018, 12 points, 31 matchs, il y a 3 défenseurs qui ont des meilleures statistiques dans cette équipe-là que William Trudeau, et je te confirme que ces 3 défenseurs-là n'ont pas été repêchés dans la LNH. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qui se développe tranquillement sur le tard. C'est un espoir assez tardif au niveau du repêchage de la LHGMQ. Là, je crois que c'est 12 ou 13e tour pour le rang de sélection. Je l'ai ici, là, 11e tour, tu vois.
Et... Dans le fond, le pari un peu de Trevor Timmons, c'est que la courbe de progression de Trudeau n'est pas encore terminée. Il va continuer à progresser, c'est un peu ça.
Ouais, exact. Tu sais, on appelle ça la progression, le upside, si tu veux. Là, c'est que si tu le regardes, là, dans les dernières années, c'est vertigineux, la progression. Donc, tu prends une chance, même si c'est un late, là, c'est un joueur né à l'automne 2002, ben, tu prends la chance de te dire qu'il va continuer à s'améliorer. Il l'a fait depuis 3 ans. Donc, si ça continue à ce niveau-là et qu'il a une bien meilleure saison que la dernière, qui a été bonne, mais il y a des bonnes statistiques, ben, écoute, t'as peut-être un diamant caché dans tes mains. Tu sais.
Bon, mais ça, c'est intéressant, particulièrement parce que c'est un choix de quatrième tour du Canadien. Donc c'est un beau pari là, calculé là, de la part de l'organisation. Moi, le joueur qui m'a le plus surpris, qui glisse autant, c'est Joshua Roy. Et je l'avais beaucoup plus haut sur mes listes, mais finalement, le Canadien l'a ramassé en cinquième ronde. Ça, est-ce que ça, juste ça, Marty, est-ce que ça t'a surpris que le Canadien ait la chance de mettre la main sur Joshua Roy aussi loin dans le repêchage?
Ouais, je n'ai pas le choix de te dire oui. Moi, ce que j'avais l'impression, c'est que je pensais que certaines équipes ne l'aimaient pas. Ça, j'étais pas mal convaincu de ça. Mais je pensais qu'il y en a d'autres qui l'adoraient au point de peut-être... je le voyais troisième tour environ, là, pas deuxième, mais ça ne m'aurait pas surpris non plus. Moi, c'est ça que je voyais davantage. Là, de voir qu'il glisse en cinquième tour... Écoute, moi, dans mes listes, je l'avais 33e, Joshua Roy. Je serais mal placé de dire que c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise sélection des Canadiens. Là. Je pense que c'est un excellent coup, honnêtement. Premièrement, cinquième tour, tu prends une chance. Pour, si tu te trompes, de toute façon... il n'y a pas beaucoup de joueurs de cinquième tour qui évoluent dans la LNH. Je trouve que c'est un pari intéressant. Je crois que ce qui attire peu l'attention des gens, c'est que ce n'est pas un joueur spectaculaire. De la façon qu'il joue, là, il fait tout bien, mais c'est pas lui qui va faire des montales en porte-pièce. C'est pas lui qui va faire des feintes à la Pavel Datsyuk. C'est pas lui qui va être dans les jeux de la semaine de la LHMQ ou même des différents réseaux sportifs. Tu sais, mais il fait tout bien. C'est quand même un gabarit. T'sais, c'est pas le plus gros, mais c'est un gabarit intéressant. Là. 6 pieds, c'est quand même pas mauvais. Il joue bien dans les coins. Il est super bon pour soutirer la rondelle à l'adversaire. Il est très intelligent. Puis, bon sens du hockey. Énormément. Il voit super bien les jeux se développer. Crée les occasions lui-même par son intelligence. Crée de l'espace à ses coéquipiers. J'ai de la misère à te nommer un défaut. Honnêtement, là, il est bon. Partout. Moi, je l'avais 33e, c'est pas pour rien. Là. C'est vraiment un choix intéressant là, des Canadiens. Vraiment, c'est une des bonnes sélections, honnêtement.
C'est Michael Lalancette qui me le faisait remarquer là, via son compte Twitter. C'est un ancien choix, premier au total de la LHJMQ, Joshua Roy.
Oui, tout à fait. Il y avait une saison de 88 points, il y a Midget 3. Et lui, si tu regardes cette saison-là, depuis les années 2000, il a eu la troisième meilleure saison en termes de points par match là, de l'histoire du Midget 3 depuis 2000. C'est quand même incroyable. C'est plus de points que Lafrenière par match. Là. C'est plus de points que Lafrenière. C'est plus de points que des Jonathan Huberdeau. C'est plus de points que bien d'autres bons joueurs. Puis là, ça ne fait pas gage de succès, les gars. Je peux te nommer plein d'exemples également de joueurs qui ont été excellents Midget 3 et qui n'ont pas joué un match dans la LNH. Mais c'est simplement pour vous donner une idée à quel point... Ben, ça a toujours été un joueur de avec une bonne réputation parce que justement, il a eu sa grosse saison Midget 3.
Tu sais. Je suis content que tu parles de réputation, Marky, parce que je t'amène une piste de réflexion. Est-ce que le fait qu'il ait été transigé à Sherbrooke au courant de la saison, ça aurait un peu contribué au fait qu'il glisse autant dans la séance de repêchage?
Ouais, peut-être un peu. J'ai regardé un peu quelques commentaires. Il y a également sa constance qui revient là, quand je vois des critiques. Souvent, les gens se disent il fait une excellente présence, ce qui est super, super dédié. Par la suite, il peut être 5 ou 6 présences où tu ne le vois pas vraiment. C'est pas faux, honnêtement. Ça peut arriver à l'occasion que tu vois quelques présences où tu ne le vois pas vraiment. Mais moi, je ne suis pas inquiet, là, honnêtement. Là, moi, je pense que ça va se corriger. Je pense qu'il va être capable de trouver de la constance. C'est quand même un joueur de 17 ans. Là, c'est un jeune. Il a encore le temps de s'améliorer. Puis là, je reviens à le fameux argument... La fameuse information de Trevor Timmons qui adore ceux qui ont performé tard en fin de saison. Joshua Roy, lui, si tu regardes les statistiques, les Saguenay de Chicoutimi ont gagné en 3 matchs contre le Phoenix de Sherbrooke. C'était des séries 3-5 exceptionnellement. Mais Joshua Roy était très, très bon. Premièrement, le Phoenix, qui n'était pas une très, très grosse équipe, là, avant l'arrivée de Joshua Roy, c'était la pire équipe de la LHMQ. Il y avait de la misère à gagner même un match. Là. Mais lorsque Joshua Roy est arrivé, premièrement, le Phoenix s'est mis à... Tu sais, drôle de coïncidence, là, le Phoenix s'est mis à gagner davantage. Il a quand même produit un certain rythme. Là, c'est pratiquement, je pense, un point par match, malgré qu'il n'y avait pas nécessairement de gros joueurs avec lui. Là, le meilleur, je pense, c'était Xavier Parent. Et en série, il a quand même bien performé. Là. Il a eu des statistiques quand même intéressantes. Il faudrait que je revoie les statistiques.
Ben, j'ai devant moi, en fait. Il a fait 13 buts en 20 parties en saison régulière. Et en série éliminatoire, il a fait 1 but, 3 passes en 3 parties. Donc, effectivement, malgré le fait que Sherbrooke était loin d'être une puissance, lui, il s'est présenté. Lui, il l'a produit. Donc, ça, c'est encourageant.
Exactement. Puis je sais que j'ai souvent entendu des commentaires, puis là, ça date peut-être même du Midget 3A. Mais j'ai souvent entendu dire que Joshua Roy, lorsque ça compte, se présente. Donc là, ça devient encore plus intéressant. Donc lorsque tu vas jouer des gros matchs importants dans le futur, supposons qu'il joue à Montréal, ben il y a fort à parier qu'un Joshua Roy va sortir davantage que peut-être d'autres joueurs. Donc ça en fait un choix vraiment intéressant. Non, moi, honnêtement, je suis très emballé par cette sélection-là.
Honnêtement, c'est le trait de caractère qui moi, m'intéresse le plus lorsque je regarde jouer un jeune joueur. Est-ce qu'il est capable de performer quand ça compte? Ça se transpose tout le temps à l'autre niveau. T'sais, les aptitudes à faire une feinte ou un bon tir, des fois, il y a certains trucs qui c'est plus difficile, là, mais c'est mental, c'est sûr qu'il va conserver ça. Donc, moi aussi, je suis vraiment emballé par cette sélection de Joshua Roy.
Puis c'est une petite anecdote, là, c'est intéressant parce qu'il y a environ 2 semaines, j'ai eu l'occasion de lui parler en personne à Joshua Roy, là, justement avec Alexandre Régimbal, on est allé le voir du côté de Saint-Georges-de-Beauce, sa ville natale. Puis j'ai vraiment vu un jeune intelligent, là, premièrement, il est super sympathique. La tête à la bonne place. Puis, je ne dévoile pas la nature nécessairement des conversations exactes, mais on parlait de certains détails de jeu de temps en temps. Puis, tu voyais que sa compréhension du jeu était très, très, très bonne. Là, lorsqu'il parlait de tel joueur, il se passe de telle façon, telle façon, telle façon. Tu voyais qu'il comprend super bien le jeu et ça se reflète de la façon qu'il se débrouille sur une patinoire. Quelqu'un qui est toujours, toujours super bien placé. Coupe les lignes de passe au bon endroit puis ferme l'espace souvent à l'adversaire. C'est sa principale qualité. Puis dans la LNH, les détails, c'est important. Ça fait en sorte... Moi, je pense qu'il y a quand même des chances pour être un top 6 un jour, mais supposons que ce n'est pas un top 6, je pense que ça peut quand même devenir un joueur de troisième trio parce qu'il va tout simplement se débrouiller sur le plan des détails, d'être bien positionné, de mettre de la pression au bon moment, puis il va être capable... Écoute, j'ai tellement vu souvent, Anthony, là, des séquences où... Il crée des revirements, là, c'est fou. Je pourrais regarder dans mes archives, je pense que j'en ai 9 ou 10. Là. C'est fou.
Autant j'étais content de la sélection de Joshua Roy pour le joueur de hockey, autant j'étais heureux de la sélection de Xavier Simoneau pour l'être humain. Parce que lui, on l'a rencontré, on l'a reçu sur notre podcast à la relève il y a de ça quelques mois. Puis moi, je t'apprends rien en disant que j'ai un énorme coup de cœur sur Xavier Simoneau depuis plusieurs années. C'est un joueur que j'adore par son éthique de travail.
On a même eu l'occasion de lui dire en personne, là.
Oui, j'étais un peu gêné d'ailleurs. Mais quand j'ai entendu que son nom sortait en 6e ronde, Marty, je te le dis, j'avais l'impression que c'était mon cousin qui venait d'être pêché. J'étais tellement content pour lui. Il le mérite. Il a travaillé tellement fort, il le mérite. Puis qu'est-ce qu'un Xavier Simoneau, au-delà du fait que j'ai un man crush dessus, là, qu'est-ce qu'il va apporter à l'organisation?
Mais tu sais, premièrement, tu as raison de le dire, c'est tellement une belle histoire. Là. Écoute, c'est un bel exemple de courage, de persévérance pour tous les petits joueurs qui sont 6 pieds, 5 pieds 6, 5 pieds 7 pouces, 5 pieds 8 pouces, qui se font dire par tout le monde, t'es trop petit, tu ne joueras jamais dans la LNH. Ben, vous voyez, lui, Xavier Simoneau, est tout petit, il est 5 pieds 7 pouces. Les équipes de la LNH l'ont ignoré 2 fois, puis finalement, il voit son nom être appelé par les Canadiens de Montréal. Ce qu'on peut voir de Xavier Simoneau, moi, j'ai toujours adoré également, là, bon, moins que toi, mais je l'ai toujours aimé quand même. Et tu sais, ce qui ressort, c'est sa fougue, c'est son intensité. C'est un joueur qui travaille continuellement sur une patinoire, toujours le premier dans le visage de l'adversaire. Et ça, tu le sais, je le dis souvent, dans la LNH, si tu veux jouer dans la LNH, t'es pas obligé d'être le meilleur joueur en général, mais tu dois avoir une qualité où tu es exceptionnel. Et lui, Xavier Simoneau, sa qualité exceptionnelle, c'est qu'il a un cœur gros comme le Centre Bell. C'est quelqu'un qui va continuellement travailler. Tu sais, c'est une sélection Raphaël Harvey-Pinard. C'est vraiment
exact. C'est exactement la même chose, en fait, dans les mêmes circonstances.
Exactement. C'est exactement la même chose. Et je te dirais même que Xavier Simoneau, sur le plan des habiletés individuelles, sur le profil de joueur, il est même peut-être en avant sur Raphaël Harvey-Pinard. Raphaël Harvey-Pinard, ce n'était pas nécessairement un haut choix dans la LHGMQ. C'est un gars qui s'est développé plus sur le tard. Je ne me trompe pas, ça a une énorme progression entre 17 et 18 ans dans son cas. Mais Xavier Simoneau, lui, c'est un premier choix dans la LHGMQ. C'est un gars qui a performé à 16 ans. Là, je pense une saison de 45-50 points. C'est 45 points en 61 matchs. Donc déjà à 16 ans, il était très performant. A été nommé capitaine des Voltigeurs. C'est souvent un nom qui ressortait parmi les joueurs de la LHGMQ comme le joueur le plus sous-estimé de la Ligue parce qu'il travaille super fort. Mais tout ça pour dire que lui, il a des habiletés individuelles et en plus, il travaille fort. Donc, au sixième tour, ça vaut absolument la peine de prendre une chance sur lui. Et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il a 20 ans, honnêtement. Il pourrait très bien signer un contrat avec le Rocket de Laval et aller jouer dans la Ligue américaine cette année, même s'il a été transigé à Charlottetown dans la LHGMQ. Mais je ne serais pas surpris, honnêtement, qu'il se taille une place dans la Ligue américaine. Et là, c'est un développement à long terme. Il va passer peut-être 2 ou 3 ans dans la Ligue américaine. Puis moi, je te le garantis que ses entraîneurs vont l'adorer. Puis il va faire des. Moi, je le vois à Montréal à un moment donné. Quand? Je ne le sais pas. Mais il travaille. Des joueurs qui travaillent comme ça, ça fait mentir des gens. Regarde Antoine Roussel. Là. Je t'aurais jamais dit qu'Antoine Roussel jouerait dans la LNH. Puis il l'a fait parce que c'était le joueur qui travaillait toujours le plus fort partout où il était. Je pense que c'est la même chose dans le cas de Xavier Simon.
Ouais, puis malgré le fait que Joël Bouchard n'est plus à Laval, je pense qu'on veut quand même conserver cette identité-là de joueur qui travaille. T'sais, on l'a vu tout au long de la saison. C'est une équipe qui n'est peut-être pas bourrée de talent, mais c'est une équipe qui a un système de jeu en place. On l'exécute, on travaille fort, on veut que ça fonctionne. Puis Xavier Simoneau nous l'avait même confié sur cette tribune. Moi, je regarde aller Raphaël Harvey-Pinard, puis je m'inspire de ce qu'il fait. Ben là, ils vont avoir la chance d'être dans la même chambre des joueurs. Moi, je suis vraiment content pour lui. Ça sera pas un marqueur de 50 buts dans la Ligue nationale de hockey, mais c'est la personne qui peut faire en sorte que le momentum reste de ton côté, qui peut créer cette espèce de vague-là, qui peut amener l'équipe à se dépasser, à forcer aux autres coéquipiers, les gars qui ont peut-être un peu plus de talent, mais qui, des fois, ça prend un petit coup de pied dans le cul pour partir. Quand tu vois un gars comme Simoneau qui se donne à 200%, ça peut inciter les joueurs à aller au fond des choses. Puis quand je regarde des sélections comme les Sénateurs d'Ottawa, qui, eux, ont repêché des joueurs comme ça, mais en haute sélection, j'ai plus de difficultés. Mais en bas de repêchage comme ça, surtout un Québécois, j'applaudis la sélection de Xavier Simoneau. Ouais.
Puis c'est drôle que tu parles un peu de l'attitude du joueur, tu sais. J'écoutais l'entrevue de Xavier Simoneau avec Alexandre Régimbal, justement pour la LHGMQ, puis il y a un détail qui est intéressant. À un moment donné, notre ami Alex lui pose la question « Toi, qu'est-ce que tu vas faire de la pression de Montréal? Est-ce que ça t'intimide ou au contraire, ça te motive? » Puis honnêtement, tu sens l'honnêteté pure là, dans sa réponse. Là, tu sens que ça vient comme du fond du cœur, puis il dit quelque chose comme « Je suis un joueur de hockey, à un moment donné, la pression, tu dois être capable de vivre avec. » Puis je sais très bien que c'est pas tous les joueurs qui pensent comme ça. Donc, lui, ça fait simplement démontrer à quel point il a du caractère, il a du chien. Donc, lui, un marché comme Montréal, en fait, tu me fais penser, probablement que Xavier Simoneau, supposons qu'il joue avec les Canadiens, qu'il joue 5 ou 6 ou 7 ans, puis par la suite est échangé, probablement que ses meilleures années seraient à Montréal parce que les partisans sont toujours derrière lui. Ils lui mettent de la pression et lui, ça va le rendre meilleur comparativement. Je pense que c'est pas le genre de joueur qui va vouloir jouer en Arizona. S'il n'a pas le choix, il va le faire, mais ce ne serait pas son choix numéro un parce qu'il va débarquer dans les rues, puis personne ne va connaître son nom. Lui, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans un marché de hockey.
Oui, puis il l'a dit par lui-même, il l'a dit cette saison COVID, le fait de ne pas avoir cette espèce d'engouement-là des partisans, c'était plus difficile parce que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est très près des communautés. Il y a moins cet aspect professionnel-là du Centre Bell, un peu inaccessible, inatteignable. T'sais, quand tu joues à Drummondville ou peu importe, tu es collé sur les partisans. Tu sens vraiment qu'ils sont derrière toi. Fait que je pense que tu as 100% raison. Moi aussi, je pense que le fait de jouer pour le Canadien de Montréal, ça va le forcer à se dépasser.
Puis, rappelle-toi, on en avait parlé. Là, il est tellement impliqué. Ben là, il joue plus pour les Voltigeurs, donc je ne sais pas si ça va continuer. Mais il était tellement impliqué dans toutes sortes de causes à Drummondville. C'était le porte-parole d'une fondation au centre du Québec. Il faisait des campagnes continuellement pour lever des fonds. Toujours dans les hôpitaux pour tenter d'encourager les enfants malades à Drummondville. Il était dans un programme pour encourager justement les enfants malades à assister à des rencontres et des voltigeurs. Donc, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Tu sais le fameux événement des Canadiens qui visitent les enfants à l'hôpital Sainte-Justine? Là, je pense que lui, t'sais, on va se le dire, il y a des joueurs probablement qui le font par obligation plus que d'autres choses, mais lui, je crois que ça lui ferait sincèrement plaisir et je pense que si ce joueur-là débarque à l'hôpital Sainte-Justine à réconforter des enfants. Je pense que c'est le genre de gars qui va gagner davantage un capital de sympathie parce qu'il va tellement être sympathique, va tellement donner à la communauté. Là, c'est vraiment une bonne personne, honnêtement.
Ouais, puis je pense qu'un peu comme Steve Bégin l'a été à l'époque, s'il atteint la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal, il va devenir un chouchou du public. Ça, j'en suis convaincu.
Puis, je ne sais pas si tu as vu l'histoire également de comment, où il était lorsqu'il a été repêché. C'est vraiment intéressant.
Ça, oui, je l'ai vu sur Twitter. C'est très drôle. Tu peux le raconter pour les gens à la maison.
Oui, c'est ça. Mais pour vous le raconter, dans le fond, on s'entend, on peut comprendre que Xavier Simoneau n'était pas arrivé devant son téléviseur à attendre d'être sélectionné. Ça faisait quand même deux fois qu'il avait été ignoré. Donc, il était sur un tournoi, sur un terrain de balle molle avec son père et un peu toutes sortes de membres de sa famille. Puis, c'est ça, à un moment donné, il est sur le terrain. Puis là, il entend crier « Ah, t'as été sélectionné par Montréal! » En fait, c'est son père, je pense, qui lui annonce dans le champ droit. Puis, finalement, le match se termine. Puis, tout le monde se lance un peu sur lui. Puis là, il se dépêche de s'en aller tout de suite chez lui pour prendre des appels et faire des entrevues. Mais tout ça pour vous dire que c'est un peu... ça ressemble un peu à la lancée compte lorsque Pierre Lambert se fait repêcher dans un camion livraison de chips.
Tu l'as dit, je suis vraiment content pour lui parce que probablement qu'il est arrivé devant son téléviseur les deux années précédentes et évidemment la déception qui vient avec. Là, félicitations Xavier, tu es à une étape de plus, tu as franchi une autre étape là, d'atteindre ton rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Marty, bon, on revient en haut du repêchage parce que on a parlé de Riley Kidney qui était un des deux choix de deuxième tour, mais immédiatement après Kidney, le Canadien a repêché le cousin de Kasperi Kapanen, Oliver Kapanen. Ça me semble quand même être une excellente sélection de la part du tricolore.
Ouais, c'est un bon choix. Je l'aime beaucoup, Oliver Kapanen. Tu vois, je regarde dans ma liste, là, je l'avais 53e au rang des meilleurs espoirs, donc c'est légèrement plus bas que où je l'avais, donc ça, c'est un bon signe pour les Canadiens. Non, Oliver Kapanen, je l'ai toujours adoré. Je trouve que c'est un joueur de centre, là. C'est pas un ailier comme Kasperi, mais c'est quelqu'un qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Il travaille super fort, toujours bien placé, supporte beaucoup ses défenseurs. Comme je viens de le dire, c'est un joueur de centre, là, donc c'est probablement sa principale mission en défense, c'est d'appuyer les défenseurs. Il fait un bon travail à ce niveau-là et il a un bon lancer également. Au niveau offensif, bon, c'est pas le plus offensif, mais il est capable de générer un petit peu. Donc, c'est une combinaison de joueurs qui travaillent fort et qui ont un petit peu de qualité offensive. Moi, ce que je peux voir, c'est peut-être éventuellement un joueur d'un troisième centre là, qui peut avoir un peu le coffre à outils à Arturi Lehkonen, si tu veux, sans comparer les styles. Là. Mais ça peut devenir un joueur qui va être très utile sur un troisième trio. Il va faire à peu près tous les petits détails sans avoir la grosse production offensive. Là. Je pense que ça peut devenir un joueur de 30 points dans la LNH, environ.
Oui, puis tu sais, comme bien les Finlandais, c'est des joueurs qui apprennent à être responsables avant de nécessairement apprendre à patiner ou à marquer des buts. Fait que, habituellement, les Finlandais, c'est ça, c'est fiable. Puis pour les gens qui Kapanen, ça vous dit quelque chose, c'est le neveu de Sami Kapanen.
Oui, tout à fait. Puis là, la seule chose qui est dommage, pour ceux qui ont regardé peut-être le mondial des moins de 18 ans, il faisait partie de la formation finlandaise. Le problème, c'est que je pense que c'était son premier match préliminaire. Il a eu une très grosse blessure. En fait, il a quitté le match sur civière. Grosse mise en échec qui a été quand même assez lourde. Mais rassurez-vous, là, il a joué la fin du tournoi. Je pense qu'il a manqué 3 ou 4 rencontres, puis il est revenu. Là. Mais bon, ça, c'est inquiétant. C'est simplement pour dire, c'est dommage, on aurait aimé ça le voir davantage dans cette compétition-là. Pour les gens qui n'ont pas l'occasion d'écouter des matchs de la Liga finlandaise ou des matchs en Suède, là, ça, c'est la principale opportunité de voir les espoirs. Et lui, bon, on a peut-être moins eu la chance de le voir. Donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle on peut moins en parler, mais ça reste une sélection intéressante.
Bon, Marty, on en parlait en début de podcast. La droite de la défensive, c'était un besoin pour le tricolore. C'est d'ailleurs une des principales raisons pour laquelle ils ont ramassé Logan Mailloux. Mais ils ont aussi ramassé le défenseur droitier, le défenseur russe Dimitri Kostenko. Je ne lui avais pas vu jouer beaucoup. J'ai regardé des highlights, là, évidemment, après le repêchage. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'aptitudes.
Ouais, ben c'est de la façon qu'il faut le voir. Ce qui est intéressant dans son cas, on parle d'un joueur admissible pour la première fois au repêchage. Là, c'est important ce que je dis parce que il y a des joueurs du même profil qui ont été repêchés, mais qui étaient un draft plus one, si tu veux, là, première plus two plutôt leur deuxième année d'admissibilité puis troisième année d'admissibilité. Kostenko, lui, c'est sa première et il a quand même joué au niveau de la VHL, qui est la Ligue américaine de la KHL, si tu veux. Ses statistiques ne sautent pas nécessairement aux yeux lorsque tu regardes ça, mais comme je l'ai souvent dit, tu joues contre des hommes. Peut-être un peu normal d'avoir moins de statistiques. Je me rappelle, Kostenko, ce que j'aimais bien, lui, c'est qu'il bouge super bien la rondelle. Sa mobilité latérale est vraiment, vraiment excellente. Je trouve pas que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sens offensif, mais s'il est capable d'atteindre la LNH, je pense que ça peut devenir un très bon défenseur de troisième paire qui va justement... tu sais, un genre d'Alexander Romanov moins bon un peu, si tu veux. Parce qu'il bouge super bien la rondelle, il y a quand même un certain gabarit, mais au niveau offensif... C'est peut-être pas le gars qui attaque le plus le filet ou qui a le plus de chances de marquer. Donc,
moi, j'aime son coup de patin. Il est capable de transporter la rondelle. Il n'a peut-être pas le. Comme tu dis, il n'a peut-être pas un sens offensif pour déjouer tout le monde et se rendre jusqu'au filet. Mais il est quand même très fluide. Moi, j'aime bien ça, ce modèle-là un peu de 2.0 de défenseur nouveau genre, de transporter la rondelle. J'ai l'impression qu'il possède cette qualité.
Oui, non, tout à fait. Bien, c'est ça, comme je dis, c'est la principale. Ce qui est vraiment intéressant dans son cas, c'est sa mobilité et son coup de patin, comme tu dis. Là. Comme je viens de te dire, je ne comparerai pas à Romanov, mais Romanov, c'est un peu la même chose. Il a un bon coup de patin, il est capable de transporter la rondelle. Et pourtant, Romanov ne sera jamais un défenseur offensif dans la LNH. Donc, honnêtement, c'est bien correct. Tu n'as pas besoin d'avoir 70 défenseurs qui transportent la rondelle et qui attaquent le filet. Donc, c'est une sélection intéressante, honnêtement. Là, Kostenko, ça peut devenir un méchant bon défenseur de troisième paire qui va très bien bouger la rondelle. Comme tu dis, là, un peu des qualités de défenseur moderne, là, qui est gros, mais qui bouge bien la rondelle, là, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 10 ans environ.
Ouais, il y a 10 ans, c'était plus un gros défenseur qui accroche puis qui frappe. Là. C'était pas mal plus ça qui était à la mode. Je pense que Kostenko, c'est ça, tranquillement, on regarnit la droite de la défense parce qu'on le sait, bon, le Canadien, les dernières années, bon, Noah Jolson, ça n'a pas tourné comme on voulait. Kyle Fleury est parti. Il y a eu quand même... Il y a peut-être Josh Brook, là, mais... fait que là, au moins, avec le Canadien de ce côté-là, on ramasse deux défenseurs droitiers. Et finalement, on se transporte, Marty, en cinquième ronde où est-ce qu'on a ramassé un autre défenseur droitier. C'est encore un Russe, Daniil Sobolev. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à son sujet?
Bien... Honnêtement, lui, c'est un pari, puis là, j'ai pas la science infuse, parce qu'il faut comprendre, c'est que Daniil Sobolev avait décidé d'aller jouer dans la Ligue junior de l'Ontario avec les Spitfire de Windsor. Il a pas eu de saison, mais lui, il a pas décidé de changer son fusil d'épaule et de jouer en Russie. Il est demeuré... Tout ça pour dire qu'il a pas joué de l'année. Donc, ça, c'est sûr, c'est compliqué. Là, ce que j'ai vu de lui, c'est des séquences de 2019-2020. Il y a un monde... Et là, les équipes ont accès à des choses que moi, j'ai pas accès. C'est très difficile de pouvoir dire à quel point il a évolué un an et demi plus tard. Mais moi, ce que j'ai vu un peu, c'est un défenseur bon dans les deux sens de la patinoire, quand même. J'ai trouvé qu'il bougeait bien la rondelle. Il bougeait quand même assez bien la rondelle. C'était probablement sa principale qualité. Capable d'attaquer quand même un petit peu le filet, même si c'est pas justement un Logan Mailloux. Mais que ça, très bon, très complet. Mais malheureusement, c'est ça. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas joué. Les séquences que j'ai vues remontent à mars 2020. Donc, c'est certain que ça commence à dater, si tu veux. Mais je trouve que le pari est intéressant quand même. Là, de voir ce qu'il était capable de faire à 16 ans au niveau de la Russie, parce que les derniers matchs qu'il a joué, c'était en Russie. Ça peut être prometteur. Si tu le rajoutes un an ou deux, tu peux te dire, OK, dans la Ligue junior de l'Ontario, ça peut être assez prometteur. C'est peut-être quelqu'un qui aurait été repêché pas mal plus tôt s'il y avait une saison. De toute façon, on ne le saura jamais, là, mais c'est possible.
Mais je te pose la question, comment est-ce que les recruteurs, et pas seulement ceux des Canadiens, là, comment est-ce qu'ils ont fait pour amasser des données dans son cas s'il n'a pas disputé de partie de la saison? Est-ce qu'on s'est seulement fié à sa saison précédente? Penses-tu que les équipes avaient du footage de pratique ou, comment est-ce qu'on a fait pour évaluer ce joueur-là?
Mais c'est sûr qu'on ne s'est pas seulement fié à sa saison 2019-2020. C'est certain. Là, c'est pas au niveau de la LNH. Je sais que j'ai parlé avec des recruteurs de la LHGMQ, par exemple, qui, eux, avaient une situation pas mal plus complexe. Tu devais évaluer des joueurs dont les derniers matchs remontaient au rang Bantam 3A. Et là, tu dois savoir s'ils sont capables de jouer dans la LHGMQ. La progression entre un joueur de 14 ans et de 16 ans, tu le sais comme moi, Anthony, on a tous été adolescents, là. Entre 14 et 16 ans, tu as une énorme différence au niveau de la croissance. Donc, c'est extrêmement difficile de dire, OK, le joueur ne s'est pas démarqué, c'est un joueur de 5 pieds 8 pouces, il n'y aura pas de carrière. Finalement, le joueur mesure 6 pieds 1 pouce, finalement, un an plus tard. C'est difficile à prédire. Mais tout ça pour dire qu'eux faisaient beaucoup d'entrevues avec les entraîneurs sur l'attitude, le caractère, comment ils travaillaient, ces façons-là. Je sais que ça évolue beaucoup des pratiques également. Vers la fin de la saison, les mesures...
Des scrimmages entre équipes, là.
Ben, les mesures sanitaires étaient un peu plus... étaient moins restrictives, donc ça permettait aux équipes de faire de mini-pratiques, si tu veux. Et là, les équipes pouvaient regarder ça, on s'entend. Le principal mandat des équipes Midget 3A, c'est de faire en sorte que leurs joueurs soient repêchés au niveau supérieur. Donc, moi, j'ose espérer qu'un Sobolev avec son agent, on fait à peu près la même chose. Envoyer des visuels d'entraînement, c'est ça, on fournit à peu près toute l'information disponible via l'attitude, le caractère pour les entrevues. Je pense que ça s'est passé beaucoup comme ça, mais c'est certain que ça ne va jamais battre une situation de match, ça, c'est certain. T'sais.
Et finalement, le dernier choix des Canadiens de Montréal, un classique, c'est un ou l'autre. À tous les ans, le Canadien en septième ronde, soit qu'ils échangent leur choix pour le choix de l'année suivante, mm-hmm. ou ils repêchent un gardien. Ça, c'est un classique. Et cette année, on est allé pour le monstre, un grand gaillard de 6 pieds 6, Joe Verbicic, ou en tout cas, mm-hmm. j'ai de la misère un petit peu à le prononcer. Là. Ouais,
j'ai pas entendu, mais je pense que c'est ça. Là.
En tout cas, Verbicic. Mais bon, moi, évidemment, les gardiens de but, j'ai extrêmement de la difficulté à analyser ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur ce gros bonhomme là, qui évolue en OHL?
Ben, moi, comment je le vois, c'est vraiment un pari de Trevor Timmins de dire on prend ce joueur-là au septième tour parce qu'il a un énorme gabarit. Il est 6 pieds 6 pouces. Donc, c'est vraiment pas un gardien mobile. Là. Moi, si tu veux mon avis, pour l'instant, je ne l'aime pas du tout, mais je comprends ce que les Canadiens veulent faire derrière ça. C'est de prendre le pari de dire OK, il est 6 pieds 6 pouces, il a un énorme gabarit, il est plus gros que la majorité des gardiens de but. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de mobilité. Donc, si tu. Fait passer la rondelle d'un côté ou de l'autre de la patinoire, ben c'est pratiquement certain que tu vas avoir un but. Mais en même temps, premièrement, si ta défense joue quand même assez bien, ben, il n'y en aura pas de passe d'un côté de l'eau ou de l'autre de la zone. Puis deuxièmement, le développement des gardiens des fois est parfois assez hasardeux. Lui, il se pousse, mais rien ne veut dire que si tu travailles sa mobilité avec lui, son côté athlétique, peut-être qu'il ne sera pas peut-être meilleur dans l'LNH. Et là, si s'améliore assez pour être capable de jouer dans les rangs professionnels, ben, tu le sais comme moi qu'un gardien de 6 pieds 6 pouces, ça devient intéressant. Donc, moi, je pense que c'est davantage un énorme pari qu'on prend. C'est vraiment un projet à long terme, selon moi.
Oui, mais comme était Kaden Primo, qui lui aussi était un choix de 7e tour. Je veux dire, ça peut tourner d'un côté comme de l'autre. Si ça ne fonctionne pas, c'est vraiment pas la fin du monde.
Ouais.
Puis si ça fonctionne, ben, c'est tant mieux.
Oui, mais Kaden Primo, j'ai eu le goût de dire que c'était... Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il avait glissé 7e tour cette année-là. Si je me souviens bien, c'était le gardien le mieux coté en Amérique du Nord et il a énormément glissé. Moi, souvent, je suis dans les ligues simulées, là, puis... Souvent, il sortait environ 3 ou 4e tour. C'était quelqu'un qui était coté haut. Puis, il a énormément glissé au point où les Canadiens ont pu le prendre au 7e tour. Et si je ne me trompe pas, il avait fait une transaction pour obtenir un 7e choix et le sélectionner.
C'est exact, oui. Il avait fait un trade.
Exact. Puis, je me souviens bien, la saison suivante, Kaden Primo a eu une excellente saison à Northeastern. Puis, c'est là que ça a commencé, qui a été super bon. Verbicic, lui, j'ai le goût de penser que lui, c'est vraiment plus un projet. C'est pas nécessairement qu'il y a quelqu'un qui il était sixième chez les gardiens en Amérique du Nord, mais là, les gardiens, ça vaut ce que ça vaut. Là, la liste de la centrale, je pense qu'il y a 19 ou 20 noms. Là, il n'y a jamais énormément de noms. Donc, sixième, c'est un petit peu une moins de réputation. Surtout que les gardiens, maintenant, sont davantage finlandais, russes, suédois, là, davantage des gardiens européens. Donc, un peu plus loin, moins de réputation, si tu veux. Mais c'est ça, tout simplement pour dire que c'est vraiment davantage un pari qu'on prend dans le cas de Trevor Timmins, tout simplement.
J'ai une question pour toi, Marky, parce que les Canadiens avaient les deux derniers choix, je pense, de mémoire de la troisième ronde, et on a décidé de les échanger. Dans un cas, on a ramassé un choix de l'année prochaine, donc on a tout simplement repoussé le choix de cette année à l'année prochaine, et dans l'autre cas, finalement, on a décidé de trade down, là, je pense avec le Wild, justement, là, pour ramasser des sélections un peu plus bas dans le repêchage. Pourquoi est-ce que le Canadien, il va année après année à repousser ses choix?
Ben, je vais y aller d'une hypothèse, je ne vais pas parler à personne, là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est dans la LNH, t'as, une liste, on parle souvent du fameux nombre de contrats là, qui est à 50, là, on parle souvent de ces détails-là, puis c'est vrai que c'est important. Mais tu as également la liste de réserves. La liste de réserves, c'est 90 noms. Donc, tu ne peux pas être une équipe puis avoir 15 choix à chaque année, puis de sélectionner des joueurs de la USHL, des joueurs américains qui ont, sur lesquels tu as des droits pendant 4 ans. Et là, par la suite, à un moment donné, tu ne pourrais pas faire des transactions à ne plus finir pour obtenir des espoirs. Parce qu'à un moment donné, il y a une limite au niveau de la liste de réserve, c'est 90. Et il faut être honnête aussi, tu as 23 joueurs dans la Ligue nationale, tu as 23 joueurs dans la Ligue américaine, ça fait 46. À un moment donné, trop d'espoir, c'est comme passé. Tu as beau avoir, je vais donner un chiffre aléatoire, là, tu pourrais avoir 15 gardiens de but, mais à un moment donné, il y en a seulement 6 maximum qui vont être capables d'avoir des postes, 2 dans la LNH, 2 dans la Ligue américaine. Et là, gros maximum, tu en as 2 dans la ECHL. Mais c'est trop ce comme passé. Donc là, si tu es dans la situation des Canadiens où tu as énormément repêché il y a environ 2 ou 3 ans, lorsqu'on a repêché des Kamelis, des Arsène Kitsamoudzinov, des Samuel Alain Lowe. Exact, on a repêché énormément. Ben là, c'est normal que les Canadiens sont davantage en position. Écoute, on va peut-être reculer nos choix. Et donc, il y a ce facteur-là. Et l'autre, c'est probablement que les Canadiens regardaient leur liste. Justement, s'est dit, bon, regarde, c'est-tu quoi? Tant qu'à sélectionner un joueur qu'on n'est pas certain, qu'on n'aime pas nécessairement, ben, on est aussi bien de descendre en 2022. Puis de l'autre côté, je pense que ça te garde des munitions aussi pour faire des transactions. Tu le sais comme moi.
Moi, je pense que c'est surtout ça, en fait, parce que quand tu veux faire les échanges, comme tu as fait pour Jake Allen, comme tu as fait pour Eric Staal à la date limite, comme tu as fait comme pour Joel Edmondson, ça fait pas mal. Il n'y a personne qui a chialé l'échange d'Eric Staal parce que, anyway, des choix, on en avait à l'appel. Fait que dans ce temps-là, il n'y a pas de problème. Tu sais, tu peux faire ça permet à ton directeur général d'avoir une certaine latitude l'année suivante. Puis, tu sais comme moi que ces choix-là valent beaucoup quand tu arrives près du repêchage. Fait que tu peux les repasser. Et, parenthèse, l'année dernière, quand le Canadien, en deuxième ronde, a décidé de ne pas repêcher, il a échangé son choix de deuxième tour pour un choix de deuxième tour de cette année du Lightning, mais il avait aussi ramassé un choix de quatrième tour lors du dernier encamp, et c'est avec ce choix-là qu'il a ramassé Sean Farrell, qui est un beau projet. Donc, il y a toujours moyen de faire des petites trouvailles là, quand on fait des transactions comme ça, puis je pense que tout le monde le sait, là, c'est assez bien connu, le Marc Bergevin adore ce genre de transactions.
Non, c'est ça, tout à fait. Je pense que ton argument se vaut très bien pour le choix de troisième tour qu'on a reculé en 2022. Je pense que l'argument des joueurs qu'on aimait peut-être moins, on va reculer et amasser 2 choix. Là, ça, c'était une transaction avec le Wild. Là, je pense que là, dans ce cas-là, c'était peut-être davantage ça, de se dire, OK, on va reculer un peu puis on va peut-être amasser 2 joueurs. T'sais, au lieu d'amasser 1 joueur qu'on aime, on va en ramasser 2 à des rangs plus tardifs que le rang où le Wild a sélectionné. Je pense que c'était Carl Masters là, qu'ils ont sélectionné. Là, donc,
En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est Dylan Duke qui est sorti, puis Duke n'arrêtait pas de glisser. Il était classé très haut dans les listes. Et tout le monde, en tout cas tout le monde, sur Twitter, là, les gens que je voyais passer dans mon fil espéraient que le Canadien mette la main sur Duke. Et finalement, on a transigé nos 2 choix. Donc, les gens étaient un peu déçus. Donc, je suis content d'avoir ton opinion sur les explications derrière cette décision de la part des Canadiens de Montréal. Marty, en mon nom personnel et en celui de tout le monde à la maison, je te remercie. C'était fort intéressant. On en a appris beaucoup sur les différents espoirs des Canadiens qu'on aura la chance de suivre, notamment l'année prochaine là, sur le podcast La Relève. En ce qui nous concerne, c'était notre dernier épisode de la saison. Marty, es-tu triste?
Un petit peu. C'est toujours triste de tirer la plug comme on veut sur une saison. Mais écoute, on a une super belle saison. C'était pas nécessairement évident. C'était une saison complètement hors de l'ordinaire là, d'être capable de devoir évaluer des jeunes, justement, comme Logan Mailloux dans une 3e division suédoise. Un circuit d'habituellement que tu ne regardes pas parce que tu n'as pas nécessairement besoin. Les gars sont dans la Ligue junior de l'Ontario et tout. Mais bon, ça a été formateur, si tu veux, si ça devait se reproduire. On ne le souhaite pas, là, mais si ça devait se reproduire, ça donne des pistes de solutions. Mais quoi qu'il en soit, honnêtement, on était très heureux de vous parler, on était très heureux de pouvoir vous informer sur les espoirs. Ça nous a fait énormément plaisir et là, c'est certain qu'on a parlé beaucoup du repêchage dans les dernières semaines, mais ça nous a fait plaisir également de vous renseigner sur les joueurs déjà repêchés, sur des espoirs des Canadiens. On le sait, on essaie d'être vos yeux, vos oreilles. On sait que c'est pas tout le monde qui a le temps d'aller voir un match du Steel de Chicago dans la USHL. Nous, ça nous fait plaisir de le faire et on espère tout simplement que ça vous renseigne premièrement et que vous appréciez. Puis, on espère reproduire. On va On va travailler fort pour revenir encore plus fort l'année prochaine et vous informer davantage.
Mm-hmm. Oui, pour la saison 2 du podcast La Relève. Donc, Martin Thériault, Anthony Desaulniers et aussi au nom de Nicolas Cloutier qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous cette semaine. On espère que vous avez apprécié notre collaboration tout au long de la saison, comme Martin l'a dit. Et on se retrouvera en septembre, en octobre prochain, on verra. Mais pour suivre à nouveau les espoirs des Canadiens, les espoirs qui nous intéressent un peu partout à travers la Ligue nationale. Mm-hmm. Ciao tout le monde.
Bye bye tout le monde.